Guillaume Henry, bonjour et merci d'être avec nous sur RVE. Je me permets de rappeler quelques éléments de votre parcours qui est très riche puisque vous avez grandi dans un poney club, vous êtes commencé à monter à bébé. Bébé, c'est quel âge? C'est 4 ans, c'est quoi?
Oui, à peu près 4 ans, oui.
Oh là là, d'accord. Et c'était bien à 4 ans?
Alors, il m'en reste surtout des photos plutôt que des sensations, mais
ah bon.
J'ai le souvenir. Par contre, mes premiers souvenirs, c'est plutôt vers 6 ans. On avait des poneys. On avait des poneys Shetland avec mon frère. On avait un poney Shetland qui s'appelait Pepsi, l'autre qui s'appelait Cola, très original. Et je me souviens que l'on courait dans le pré derrière eux pour les attraper. Voilà, ça nous mettait en rage parce qu'évidemment, on approchait les poneys qui partaient au galop 20 mètres plus loin et ça pouvait durer pendant des heures. Donc voilà vraiment mes premiers souvenirs. Mais j'ai aussi des souvenirs évidemment équestres puisqu'on faisait du trot, du galop.
Dès l'âge de 6 ans.
Oui, assez rapidement en fait. Ils étaient une fois attrapés, ils étaient adorables.
Ah ouais, d'accord. Et toi, tu te sentais bien à toutes les allures, pas de problème quoi.
Mais on se tutoie ou on se vous voit, Madame Ventry?
Pardon, on se vous voit. Vous vous sentiez bien à toutes les allures, Monsieur Henry?
Oui, je n'avais pas de problème pour les allures. Mais bon, un Shetland, ça galope pas non plus très très vite. Puis,
ah oui, mais
puis
ça secoue.
C'est un peu rond,
hein.
C'est ça secoue, oui. Mais
j'ai le souvenir de on se fait secouer, quoi.
À 6 ans, on trouve que c'est normal d'être secoué au galop. Donc,
D'accord. Très bien. Alors, je dis que vous avez fait, après, peut-être grâce à vos parents éditeurs, vous êtes très vite rentré dans la culture équestre. Vous avez fondé l'Association pour le développement de la culture équestre, l'Académie Pégase, le prix Cadre Noir et puis le prix des lycées agricoles. C'est-à-dire que vous avez baigné là-dedans depuis votre plus jeune âge et c'est votre passion finalement, cette lecture équestre.
Oui, mes parents étaient éditeurs, ils dirigeaient une revue qui s'appelait Plaisir Équestre, qui dans les années 70, entre les années 65 et 80 était une revue assez importante.
Ouais.
Et puis ils publiaient aussi des livres, et notamment ils ont publié Nuno Oliveira ou Michel Henriquet, qui fait que c'était des auteurs qui venaient à la maison.
Ah oui, d'accord.
Et donc, oui, j'ai été baigné dans la presse et l'édition très tôt, et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'auteurs que l'on connaît aujourd'hui qui sont des auteurs marquants et des écuyers marquants. Mmh. Et donc j'ai toujours baigné un peu à la fois dans la pratique, notamment avec Pepsi et Cola, et à la fois et puis après il y en a eu d'autres, hein. On a eu un élevage de Welsh à la maison, donc je montais des poneys Welsh, et puis à la fois dans le livre, puisque le livre faisait un peu partie de nos vies.
D'accord, ok. Oui, donc c'était tout à fait naturel pour vous d'être là-dedans, de lire beaucoup, voilà.
Exactement, c'était naturel. Et lorsque j'ai créé l'Académie Pégase en 1990,
90,
pardon, bien vu. Bravo. C'était évidemment pour à la fois partager la passion de la lecture, mais aussi parce que je trouvais que c'était important de lire. C'était à la fois important qu'il y ait des lecteurs, et c'était à la fois important qu'il y ait des éditeurs pour publier des livres. Donc c'était un petit peu l'objectif de ce prix littéraire, de mettre en avant des livres, des éditeurs et j'espère des lecteurs. Et puis un peu plus tard, j'ai créé donc le prix Pégase des lycéens, avec le ministère de l'Agriculture. Et l'idée de ce prix, c'est évidemment c'est qu'il y a une dimension de transmission qui est importante, c'est que au ministère de l'Agriculture, il trouvait que souvent les jeunes qui étaient dans des parcours agricoles, bac pro, etc., étaient souvent pensés comme des enfants un peu en perdition, pas très intelligents, etc. Alors qu'en fait, au contraire, hein, ce n'est pas parce qu'on fait un bac pro qu'on est idiot, loin de là. Et donc, l'idée du prix des lycéens est de faire une sélection.
En valeur, quoi.
Exactement. On fait une sélection d'ouvrages. C'est un prix qui est remis tous les deux ans en partenariat maintenant avec l'IFCE,
oui.
Cadre Noir, qui nous aide énormément sur ce projet et qui, je dirais, qui est la cheville ouvrière organisationnelle de ce projet. Et l'idée, c'est de faire une sélection de 2 à 3 livres qui sont lus en cours de français par les étudiants. Donc, ils étudient le livre. Alors, ce sont des livres... Sur l'équitation, hein, soit des romans, soit des livres plus techniques, soit des témoignages. Et donc, les jeunes lisent ces livres en cours de français, les étudient.
D'accord.
Parallèlement à ça, les élèves sellier bourrelier ou maréchaux ferrant, ça dépend des années, créent ce qui va symboliser le prix qu'ils vont remettre.
Mm-hmm.
Tous ces jeunes se retrouvent à Saumur, à l'IFCE une fois sur deux, une année sur deux au mois d'octobre.
Ah
ouais. Et le but de la journée, c'est d'abord de découvrir ce lieu absolument formidable qui est le site de Saumur. C'est évidemment de découvrir ce qu'est l'IFCE, ce qu'est le Cadre Noir. Mais en premier lieu, en première partie de journée, tous ces jeunes qui en général sont entre 100 et 150 se retrouvent dans l'amphithéâtre. Première étape, eh bien, il faut prendre un micro devant tout le monde pour expliquer pourquoi on a aimé ce livre ou pas, etc. Donc, c'est déjà un premier exercice.
Ah ouais.
Ensuite, on procède à l'élection. Et puis, on profite de cette journée, eh bien, pour informer les jeunes sur les différents métiers qui sont auxquels ils peuvent prétendre. On leur dit surtout que ce n'est pas parce qu'ils sont en bac pro qu'ils sont nuls, au contraire. Hein. Il y a un plus grand écuyer français aujourd'hui, Philippe Carl, très connu, qui a commencé par un bac pro. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en bac pro qu'on est terminé. Au contraire, hein, il y a toutes les chances sont ouvertes, les avenirs sont tous les avenirs sont possibles. Et donc, on leur présente différents métiers, on leur présente la personne qui est en charge des ressources, qui montre quelles sont les formations. On leur montre que c'est qu'un sellier, un maréchal ferrant, un bottier. Il y a plusieurs métiers qui viennent montrer leur métier. On les informe sur tous les parcours de formation possibles.
Mmh.
Comment on fait pour rentrer au Cadre Noir. Ils profitent de leur visite pour avoir une démonstration en général d'un écuyer du Cadre Noir. Et puis, on profite au jour maintenant aussi de leur visite pour les informer sur la sécurité, puisque avec le téléphone portable, il y a quand même beaucoup de problèmes de sécurité, d'attention, etc.
Ouais.
Donc, il y a toujours un écuyer du Cadre Noir qui vient parler de la sécurité, qui dit que lui, il éteint son téléphone quand il est à cheval, etc.
D'accord.
Et donc, il les sensibilise à tout ça.
Okay.
Voilà. Et donc ils repartent en principe, eh bien, avec beaucoup d'énergie, les yeux brillants de tout ce qu'ils ont vu et de tous leurs avenirs possibles.
Alors très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Guillaume Henry. Voilà, nous retrouvons Guillaume Henry qui nous raconte son parcours d'auteur dont on va parler maintenant. Et déjà, on a parlé de sa vie. De cavalier qui a commencé très très jeune. Et puis maintenant, on va parler des livres. Alors, un jour, vous êtes dit, je me mets devant une page et j'écris.
Alors, en fait, c'est un peu ça. Alors, c'est à la fois ça et pas ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai passé mon monitorat à Conches, à Conches-en-Ouche, au centre équestre de Conches, il y a très longtemps, au siècle passé, on avait des sujets comme qu'est-ce que l'usage des mains, l'usage des jambes, etc. Mmh. Et donc, à l'époque, j'avais téléphoné aux haras nationaux, à la Fédération française d'équitation, pour savoir s'il existait des livres, des synthèses qui pouvaient me permettre d'avoir une petite visibilité sur, par exemple, l'usage des mains au travers des siècles, sur les différents maîtres, etc. Et en fait, il n'y avait rien. Et donc, comme il n'y avait rien, ou des livres qui ne répondaient pas vraiment à mon attente, eh bien, j'ai lu tous les maîtres et j'ai fait des synthèses, des sortes de fiches, comme des mémo bacs, avec Pluvinel dit ça, La Guérinière dit ça, Baucher dit ça, Dor dit ça, etc., etc. Et ces fiches, elles ont grossi au fil du temps. Et à l'époque, je connaissais Frédéric Chéhu, qui était rédacteur en chef de la revue Magazine, et qui m'a dit mais pourquoi ne pas faire des fiches, ne pas publier ces fiches. Voilà, donc j'ai commencé à publier des fiches et à écrire dans Cheval Magazine. Et puis, de fil en aiguille, il m'a dit, mais pourquoi pas faire des petits livres. Et à cette époque, il y avait une petite série de livres aux États-Unis sur l'équitation américaine qui était un ensemble de petits ouvrages assez courts qui disaient, ben voilà, comment on choisit son cheval western, comment quel harnachement c'est pour le cheval western, ouais. quel transport du cheval western, et tout ça avec des petits livres. Et je trouvais que l'idée était bonne, donc j'ai commencé à faire ce qui va devenir une collection avec l'usage des jambes, l'usage des mains, l'assiette, les assouplissements du cheval, etc. Toujours dans l'idée à la fois de dire ce que font les maîtres, et puis de raccrocher un peu à mon expérience pour que ce soit un peu vivant, mais que ce soit très 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 simple et surtout très très construit. C'est-à-dire que souvent dans les assouplissements du cheval, on se mélange un peu entre un exercice et un autre, alors que bon, ils sont progressifs. On s'aperçoit que les aides sont un peu toujours les mêmes pour aller de l'un à l'autre, mais on va utiliser plutôt un côté ou l'autre des aides, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir une tête bien faite pour pouvoir après avoir une pratique construite.
D'accord. Et ces ouvrages, donc, on les trouve aujourd'hui chez qui
Alors, ils sont en vente libre. Hein. On les trouve dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, mais surtout, on les trouve notamment à la librairie Équilibre, qui est quand même la librairie équestre qui se trouve sur tous les salons. Ouais. Et on trouve ces ouvrages parmi d'autres, parmi toute la production annuelle. Et on rencontre d'ailleurs aussi les auteurs. C'est toujours une chance de pouvoir à la fois de voir les livres et à la fois de rencontrer les auteurs qui peuvent parler de leurs livres. Et je recommande à toutes et tous, évidemment, d'aller dans les différents salons du cheval à la librairie Équilibre. Pour se nourrir de cette littérature équestre et de ses auteurs.
Quelle bonne idée! Non, mais voilà, donc j'espère que tout le monde a noté que c'est, voilà, nous, le prochain salon qu'on va faire, c'est à Bordeaux, du 5 au 8 février 2026. Et donc, on vous retrouvera là-bas, bien sûr.
Il y a de grandes chances, oui.
Oui, quand même, parce que c'est vrai qu'en même temps, les auteurs, les visiteurs, ils sont ravis de pouvoir parler avec un auteur de l'ouvrage qu'ils vont lire ou qu'ils vont consulter. Enfin, c'est vrai que c'est assez rare, mais c'est le moment idéal, quoi, en fait.
Exactement.
Voilà. Donc, à l'âge de 20 ans, vous avez écrit vos premiers livres techniques.
Oui.
Voilà. Et ça a fonctionné?
Ma foi, oui. Oui.
D'accord.
En tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné suffisamment pour que l'éditeur m'en demande d'autres.
Oui.
Donc, c'est que ça devait se vendre un petit peu quand même. Voilà.
Et vous, alors, en tant qu'auteur, vous vous sentiez comment?
J'aimais beaucoup l'exercice de réflexion. C'est-à-dire que, évidemment, j'aime un peu tout dans cet exercice. C'est-à-dire à la fois, d'aller chercher la matière, de lire, de se renseigner, de commencer à écrire. Quand je commençais à écrire, quand j'étais plus jeune, alors c'est encore aujourd'hui, je n'écris pas en me disant que j'ai le savoir absolu. Je vais téléphoner à des écuyers ou des historiens quand c'est un livre d'histoire. Je discute avec eux, je demande ce qu'ils en pensent, je fais relire certains chapitres, etc. Ça permet d'avancer, de construire aussi sa connaissance et puis d'être le plus clair possible. Puisque lorsque l'on écrit, on est dans ses idées, et puis le lecteur, il peut avoir un autre point de vue, ou alors il peut avoir un autre prisme, ce qui fait que il va mieux comprendre une phrase ou moins bien. Donc de travailler avec d'autres personnes, à la fois à la construction et à la relecture, ça permet d'être le plus clair possible, même si évidemment, on n'échappe jamais à une phrase ou deux qui pourrait être mieux construite.
D'accord, très bien. Donc, on vous retrouve tout de suite, là, pour la suite de cette émission sur À Cheval avec Guillaume Henry. Merci d'être avec nous. Voilà, nous retrouvons Guillaume Henry. Alors, je vois sur mes fiches que vous avez écrit quand même plus de 20 ouvrages. Technique, historique, roman, ça fait du boulot quand même.
Oui, ça fait un peu de travail, oui. Oui, je crois même être à plus de 25 maintenant.
Mais, ah oui, d'accord, ok.
Mais bon, ça n'a pas le nombre n'a pas d'importance. Oui, l'écriture s'est petit à petit déployée dans ma vie. Et à tel point d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, une journée sans écrire et une journée sans monter à cheval sont deux. C'est une journée perdue. Hein. Donc,
vous êtes monté ce matin ?
Alors non, ce sera cet après-midi.
D'accord.
Parce que ce matin, je vous écoute, Madame Ventry.
Vous pouvez vous lever un peu plus tôt, hein, c'est pas un problème. Et l'écriture, ce sera aussi cet après-midi, alors.
Alors, ce sera plus. Voilà, non. J'ai plutôt tendance à mieux écrire le matin. Voilà,
ah,
à mieux écrire le matin et à mieux monter l'après-midi. Donc voilà, j'essaye de travailler comme ça.
D'accord, ok. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la fois éditeur, auteur et conférencier aussi.
Oui, et puis je donne des formations sur l'histoire et les devenirs du monde du cheval. Ce sont des formations qui sont à destination des CAP, des bac pro, des
D'accord.
licences, des masters, des futurs enseignants, etc. Et qui consistent d'abord à expliquer quelle est l'histoire de l'équitation française, puisque nous, en France, nous avons une équitation particulière, qui est l'équitation de tradition française, qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO depuis novembre 2011. Donc, j'explique à tous ces professionnels mais qu'est-ce que c'est que l'équitation française. Pourquoi ils ont une équitation particulière. Donc, on regarde historiquement comment cette équitation s'est construite jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, lorsqu'on monte à cheval, on fait des épaules en dedans, on fait des extensions d'encolure, on longe, et tout ça, ce sont des choses qui se sont construites en France tout au long de l'histoire. Nous explorons aussi quel est le visage très particulier du monde équestre d'aujourd'hui. Nous sommes en 2025, donc on a déjà fait un quart du 21e siècle. Donc on regarde quel est le visage très particulier, notamment sa féminisation qui a transformé le paysage équestre depuis les années 2000.
Ah bah oui.
Et puis
avant
dans
les
une
cavaliers,
deuxième...
c'était des militaires.
Le cavalier moyen en 1980 est un homme, il a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui a moins de 16 ans. Donc forcément, ça a transformé, même si c'est, ça tend un petit peu à se modifier puisqu'on a un retour des adultes, mais donc ça a transformé le monde équestre. Donc on regarde mais quelles sont les particularités. Il n'y a pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises, hein. Simplement, il y a des spécificités.
Oui.
Et une fois qu'on a vu ces spécificités, on va étudier, notamment grâce à des exercices d'intelligence collective, quels sont les devenirs possibles. C'est-à-dire que il y a des enjeux qui sont propres à notre époque, comme par exemple la révolution digitale, le vieillissement de la population, le changement climatique, les notions de bien-être animal, l'animalisme, etc. Donc ce sont des enjeux qui sont propres à notre époque et on essaye de regarder où cela nous emmène, comment ça peut transformer le milieu. Donc on étudie ce que l'on appelle des futurs plausibles et à partir des futurs plausibles, on regarde quels sont les futurs souhaitables et comment on peut aller vers des futurs souhaitables.
Qu'est-ce qui, chez vous, vous surprend le plus chez le cheval ?
Chez le cheval, alors déjà, chez les cavaliers, c'est leur agilité. Chez tous les élèves, c'est vraiment l'agilité des jeunes, parce qu'on critique beaucoup les jeunes générations, notamment la Gen Z. Et certains sont sans doute très difficiles à comprendre. Mais d'une manière générale, je trouve la Gen Z, en tout cas pour tous les étudiants que j'ai en face de moi, à la fois agile, plein d'idées, curieux, plein d'énergie, et je crois beaucoup en cette génération qui, parce que justement on ne la comprend pas, nous, la génération d'avant, notamment à cause de la révolution digitale qui va transformer la société. On sait qu'entre les années 2000 et 2050 à peu près, on va connaître trois fois plus de changements que pendant les 150 ans de la Renaissance. Donc trois fois plus de changements en trois fois moins de temps. Donc le monde va évoluer de façon absolument considérable. Et d'ailleurs, on le voit bien, cette Gen Z est très différente de ses parents, mais très 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 différente. Mais peut-être que c'est là justement une chance pour, alors je dirais disrupter, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas pour changer le milieu équestre, pour changer ce qui ne va pas, pour changer la société, pour changer ce qui ne va pas dans cette société et créer quelque chose de nouveau, de différent, que ma génération ne comprendra peut-être pas, mais que eux vont s'approprier et vont faire en sorte que ça fonctionne, que ça dure et qu'on puisse encore monter à cheval pendant des siècles.
Parfait, merci beaucoup. On fait une petite interruption et on va maintenant malheureusement passer à la conclusion. Donc vous avez pas tout à fait répondu à ma question qui était vous et le cheval, vous personnellement, Guillaume Henry et le cheval.
Alors tu veux que je réponde maintenant, c'est ça?
Oui.
D'accord. Eh bien, alors c'est une bonne question. Alors
merci.
Je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. Un jour, j'ai rencontré une éthologiste qui s'appelle Marthe Kiley-Worthington. Et lorsque je rencontre cette grande dame, elle me serre la main et elle me dit « Mais pourquoi le cheval est venu à vous ?» Elle me dit pas « Pourquoi je monte à cheval ?» Elle me demande pourquoi le cheval est venu à moi. Et je dois dire que cette question, ce renversement de la question, m'a beaucoup occupé et m'occupe encore beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi autant de cheval? Pourquoi une telle passion pour le cheval, pour l'histoire, pour les devenirs? Une passion dans laquelle je reviens tout le temps. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. J'avoue que je suis bien à cheval, j'aime monter, mais c'est pas comme un plaisir, je dirais, égoïste ou personnel. Je trouve qu'il y a une dimension un peu plus vaste dans l'acte de monter à cheval. Il y a quelque chose de la construction de soi et du rapport au monde dans le fait de monter à cheval ou de fréquenter les chevaux. Et voilà, j'ai une passion pour ça, mais je ne sais pas, je serais bien en mal de l'expliquer. Les chevaux sont venus et je ne peux plus faire sans, en fait. Voilà, c'est comme ça.
C'est une jolie formule. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous pour cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Guillaume.
À bientôt et merci à vous.